19h passé de 47 minutes sur Radio VFM et sur VFMradio.fr. Ce soir, le débat consacré au premier tour des élections départementales sur le canton de Vire-Saint-Sever. Autour de la table ce soir, Pascal Martin, Linda Bedouet, Jean-Philippe Roy et le conseiller départemental sortant Marc-Andreu Sabater. Il fait chaud dans les studios, ça reflète bien l'ambiance également sur cette première partie de débat. Nous allons évoquer maintenant le volet social. C'est évidemment une priorité du département. L'action sociale, les solidarités humaines constituent la mission première du département, mais les moyens mis en œuvre sont-ils suffisants? On va notamment évoquer le village pour personnes en situation de marginalité à Vire-Normandie, qui a cristallisé pas mal le débat politique ces derniers temps. Est-ce que ce projet, finalement, est révélateur que les communes doivent trop souvent se substituer à l'action du département? Linda Bedouet, c'est à vous.
Alors, je vais répondre à votre question, mais juste un petit point sur les routes. Avec notre liste, on est un petit peu chagriné par ce parti pris qui est de toujours plus de routes. Aujourd'hui, où nous devons faire face à un choc climatique à venir, post-Covid, donc deux crises systémiques que nous allons devoir affronter. Donc, est-ce que la priorité est vraiment d'augmenter les routes aujourd'hui? Et donc, l'artificialisation des terres est souvent au détriment des terres nourricières. Donc c'était juste pour donner notre point de vue sur ce sujet qui a déjà bien assez duré. Donc on peut aller maintenant sur le volet social et sur le village dit de marginalité.
Qui n'est pas un projet, on resitue dans le contexte, qui est porté par le département du Calvados. Hein, il a été confié à l'association Deux Choses L'Une.
Par l'État, c'est l'État.
Exactement.
C'est l'État.
Et il a été confié dans le département du Calvados à l'association Deux Choses L'Une. Donc encore une fois, on précise bien, ce n'est pas une compétence du département du Calvados. On faisait simplement référence à l'action sociale puisque le budget du département qui est, je crois, monsieur le conseiller départemental sortant, qui avoisine les 800 millions d'euros, il y a une part importante de ce budget qui est consacrée évidemment aux solidarités, c'est plus de 67% des dépenses, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, le département y consacre chaque année 130 millions d'euros, et pourtant on se rend bien compte qu'il y a donc d'autres initiatives qui sont mises en place localement, par l'État, par les collectivités locales. Linda Bedouet, exprimez-vous sur cette thématique.
Voilà, juste sur ce sujet de ce village, on y voit tout à fait le problème du manque de concertation qui peut crisper les populations, et alors qu'on a besoin encore plus qu'hier d'humanisme, de solidarité par rapport à la crise que nous sommes en train de rencontrer. Donc pour nous, ça marque un manque profond à ce niveau-là, et qu'il faut absolument cultiver le vivre ensemble pour que tout cela tienne. Et c'est primordial. Donc on a un rôle au département très important sur les solidarités, et nous serions ravis si nous avons le mandat de pouvoir agir à ce niveau-là avec des innovations sociales qui permettent, avec concertation, une démocratie participative qui fasse mieux passer les projets.
67% du budget du département affecté aux solidarités, c'est pas assez, il faut encore aller au-delà?
En fait, il n'y a pas qu'une histoire de subvention, il y a une histoire de méthodologie. C'est là aussi où on peut changer les choses et apporter du changement avec notre liste.
Marc-Andreu Sabater, on le précisait tout à l'heure encore une fois, on ne va pas cristalliser sur le village pour personnes en situation de marginalité. On faisait référence d'une manière générale à la politique sociale du département. En fait-il assez le département, ou quand on voit ce projet de village à Vire, est-ce que ça signifie que encore trop souvent les communes doivent se substituer à l'action du département?
Non, alors je précise que sur ce projet, la commune ne met pas un centime. Hein, c'est un projet de l'État, un appel à projet de l'État. Ce n'est pas un projet du département, effectivement. On est sur les compétences de l'État qui sont effectivement de faire en sorte, comme on le souhaite tous, qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue. Je crois que c'est quand même un objectif noble qu'on doit pouvoir tous partager. L'objectif de cet appel à projet sur le village mobile, c'est ça. C'est sortir des gens de la rue, les accompagner médicalement et socialement pour qu'ils puissent aller dans un logement autonome. Je reprécise quand même le sujet. Ce sont des gens du territoire qu'on voit tous les jours. Promenez-vous, vous voyez des gens dans la rue. Est-ce que ça vous satisfait qu'ils restent dans la rue? Ben moi non. Donc c'est des gens qui ne posent aucun problème, aucune difficulté, mais c'est des gens qui sont dans une forme de marginalité parce qu'ils sont en dehors de la société. Donc ces gens-là qui ne posent aucun problème, à un moment donné que l'État décide de s'en occuper, je pense que c'est quand même plutôt une noble cause. Alors je voulais quand même dire sur... alors je précise toujours sur ce sujet pour être clair que ce sont des gens du territoire qu'on connaît parce qu'ils ont tapé à la porte des structures sociales, que ce soit le CCS, la circonscription d'action sociale. Donc ce sont des gens qui sont connus, des travailleurs sociaux. D'ailleurs, sur ce projet, il y a tous les partenaires sociaux et médico-sociaux et médicaux. L'hôpital, la circonscription d'action sociale, enfin tous les partenaires de l'action sociale sont sur ce projet. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient totalement infondées, caricaturales. Donc, alors, il y a une crispation autour de ce projet, c'est une réalité, hein. Il nous appartient de continuer à expliquer ce que c'est réellement. Moi, je rencontre beaucoup de gens. Alors, je rencontre des gens qui sont très mécontents. Ça, c'est une réalité. Je rencontre aussi des gens, quand on leur explique, ils comprennent. Donc voilà. Alors, je veux revenir quand même sur les politiques.
D'où l'importance d'expliquer aux gens.
Oui, non, mais bien sûr qu'il faut expliquer. Et je l'ai reconnu publiquement. Nous n'avons pas suffisamment expliqué ce projet. C'est une réalité. Mais fondamentalement, ce projet, c'est un projet qui est pour notre territoire, qui est une opportunité, qui permettra de sortir des gens de la rue et des gens qui ne posent aucun problème, contrairement à ce qui a été dit. C'est un village où on peut aussi accueillir des femmes victimes de violences intrafamiliales. Enfin, qu'on soit contre ce projet, moi, ça me paraît assez étonnant quand on est un humaniste. Je voulais quand même dire que moi, je suis fier, encore une fois, même si on dit que tout au département, tout va bien et qu'à Vire, tout va mal, je suis quand même fier d'appartenir à une majorité qui a été capable, pendant la crise sanitaire, parce que nous n'avons pas parlé de la crise sanitaire, de mettre 15 millions d'euros pour pouvoir accompagner les personnes dans la difficulté pendant la crise sanitaire. 15 millions d'euros, c'est énorme. Alors, je veux bien qu'on dise que le département ne fait pas son travail, mais 15 millions d'euros, c'est énorme. C'est une somme considérable. C'est... Il y a très peu de départements qui ont été capables de faire ça. C'est lié
quand même
à la bonne...
prendre en charge
cette
gestion, M. Sabaté.
Mais
arrêtez.
Absolument pas. Ah. La gestion de la crise sanitaire, c'est un
mais
travail...
Mais la ville n'a pas substitué par rapport à l'État aujourd'hui,
là, je
par
parle
rapport
pas. Aux marginaux. Voilà. Vous aurez la parole tout à l'heure sur ce point.
Mais la ville ne met pas un centime d'euro dans ce projet, monsieur. C'est l'État qui finance, c'est pas la ville. Ça n'a rien à voir avec la ville, monsieur Roy.
La République en marche, c'est la capacité de ses responsabilités.
Mais bon, écoutez...
Allez, Pascal Martin, sur la thématique sociale, écoutez, le département fait assez.
Je vais chanter ce que j'avais prévu, effectivement, sur les budgets et autres, sur la dépendance des personnes âgées. Bon, on passe tout ça parce que tout le monde parle de ce village mobile. On a eu l'occasion de s'en expliquer en conseil communal récemment. Moi, je dis tout de suite qu'il n'est pas question de laisser tomber ces gens. Il faut les prendre en charge. Ça, c'est la première chose que je dis d'emblée. Deuxièmement, par contre, j'ai été contacté, invité par les habitants du quartier de Lorient, du quartier Maurice Duros, du quartier Bouquerel à côté, pour discuter. J'ai rencontré des gens en pleurs. Il y en a certains qui ont fait leur lettre de préavis pour quitter le quartier. Et la solution, en plus, donc le lieu, les gens, comme pour l'école de Neuville, la décision est seule. On la prend comme ça, et sans aucune discussion. Ça, c'est très mauvais. Alors, je suis sûr, comme vous disiez, un bédoué, c'est le manque de concertation. C'est même inimaginable qu'on puisse apprendre ça comme ça. Les acteurs locaux qui sont là-bas, je ne vais pas les citer, personne n'était au courant, y compris les parents de personnes en situation de handicap. Personne n'était au courant de cette implantation. Laissez-moi finir, M. André, quand même. Non, je vais aller jusqu'au bout quand même, vous avez exposé. Et alors donc, j'ai rencontré ces gens en grande souffrance, peut-être à tort pour certains, je sais bien, mais en grande souffrance. Des gens qui pleuraient, des gens qui avaient peur. Hein. Et donc, il est normal d'accompagner ce projet autrement. Mais même, au-delà, vous savez, je suis médecin, permettez-moi de vous dire que ces personnes-là que vous voyez dans la rue, je les prends en charge. Nous les prenons en charge, comme j'ai dit, Mme Rossi, l'autre jour, et à Vire, et même dans les communes alentour.
Et si alentour.
Non, mais on va aller voir chez eux, s'ils sont dans les communes, c'est qu'ils sont chez eux, pas dans des bonnes conditions, c'est vrai, mais chez eux. Mais j'ai dit que ce projet, comment ghettoise les gens, parce qu'on a eu la définition des ghettoisés, c'est-à-dire mettre les gens avec un même problème qu'est la grande marginalité dans le même lieu. Ensuite, ils vont stigmatiser. J'ai encore eu des gens ce matin en consultation qui me disent en sortant, on va aller voir ce que ça donne là-bas. Ça y est, ça a commencé. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas bien. Troisièmement,
pour l'instant, ils vont pas voir grand-chose.
La tendance, non, mais ils sont intéressés. La tendance est à l'ouverture vers la société. Alors, vous savez, j'ai 35 ans de métier. On m'en a fait avaler des tas de choses. Pour 3 ans après, dire non, c'est une erreur, on arrête. J'en ai vu plein comme ça. Alors, permettez-moi d'avoir un petit peu de recul. Ces gens-là, stigmatisés comme ça, rassemblés comme ça, pour moi, c'est pas une bonne idée. Il faut les ouvrir vers l'extérieur, les prendre en charge de la même façon, mais à l'extérieur. Mais il y a des tas d'appartements d'Envire, même si vous dites que c'est pas possible, j'en connais qui y sont. Parce que croyez-moi, d'Envire, des personnes qui dorment dans la rue, il n'y en a pas tant que ça, même s'il peut en exister. Et encore, il va falloir les faire entrer. Donc, moi, je vous ai conseillé de mettre le projet à plat, hein, et de rediscuter avec l'ensemble de la population. D'accord, il faut les aider, ces gens-là. Hein, oui, mais autrement, et peut-être dans un autre lieu qui sera, comme je vous l'ai dit en conseil communal, discuter avec l'ensemble des habitants de la région.
Très bien,
Monsieur
Pascal Martin.
Non, mais je vais répondre.
Vous répondrez peut-être après Jean-Philippe Roy, Marc-André Sabatier, parce que Jean-Philippe Roy ne sait pas encore.
Je vais répondre à la réponse après.
La réponse que je vais faire à M. Martin, j'entends vos arguments, M. Martin,
oui,
mais pourquoi ne vous les avez pas donnés quand on a présenté ce projet? Alors, vos collègues en CCAS.
Nous sommes abstenus parce qu'on n'a pas eu de réponse. Serge Coinon a posé des questions, il n'a pas eu de réponse. Mais si, souvenez-vous.
laissez-moi parler.
Ce projet
était présenté en CCS. Il y avait des élus de votre, votre groupe qui étaient là. Pas un mot, pas une critique, pas une question. On l'a présenté, madame la présidente de l'association est venue en commission des affaires sociales, présenter le projet, vous n'y étiez
le
pas,
problème.
Pourtant vous en faites partie.
Oui, mais je ne fais pas comme vous, je vous dis, moi je vais aux réunions, j'arrive pas en retard, je pars pas en avance. Quand j'y suis, j'y suis, quand je n'y suis pas, je n'y suis pas. Et vous savez qu'en ce moment, je travaille beaucoup aussi parce qu'on vaccine, il y a beaucoup de gens avec la Covid, vous n'allez pas me reprocher de ne pas avoir été à une réunion alors que vous en loupez plein, et puis quand vous êtes là, vous faites semblant d'y être. Alors non, surtout pas.
Écoutez,
je vous rappelle. Surtout pas, monsieur André, à d'autres, mais pas à moi.
Je rappelle, attendez, je rappelle.
Un peu de sérieux dans le travail de l'élu.
Bon, écoutez,
je ne suis pas d'accord.
Voyons, moi, venir directement,
vous ne venez pas dans les réunions.
Vous faites baisser le débat pour un problème qui est très important.
Non,
en parlant des réunions où on ne peut ne pas venir. Ça peut arriver de ne pas aller à une réunion. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire comme argument?
Je dis simplement.
Ça vole assez bas, monsieur André.
Pascal Martin, s'il vous plaît. Il faut penser à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent en ce moment.
On ne peut pas laisser dire n'importe quoi.
Certes, mais il faut que nos auditeurs et nos auditrices s'y retrouvent. Et Dieu sait si ça doit être assez compliqué.
Je vais être factuel.
Ne vous y mettez pas, Jean-Philippe Roy, s'il vous plaît.
Factuel. Le projet a été présenté dans différentes instances où il y a des élus proches de M. Martin qui étaient présents.
Aujourd'hui, c'est
je
moi qui suis là.
Je n'ai pas entendu une seule question, une seule critique,
si,
une
Serge
seule
Coinon
remarque.
A posé des questions.
Non.
Il
non.
n'a pas eu de réponse. Non, il a demandé. Il a demandé le procès-verbal. Vous ne l'avez pas sorti le jour en conseil communal.
Bon. Attendez. Je n'ai eu aucune question de votre part, aucune remarque, aucune critique sur ce
on
projet.
On travaille en équipe, Serge Coinon a posé, monsieur.
Consent.
Non, non, absolument pas. Nous sommes abstenus. Serge Coinon a posé des questions.
On a bien compris que vous ne serez pas d'accord sur le sujet, donc vous n'allez pas le répéter.
Revoyez votre copie, il faut revoir ce débat.
La réalité, monsieur Martin, c'est que vous essayez de profiter de cette situation.
Ah bah absolument pas. Je suis allé voir les gens parce qu'ils m'ont appelé. Je n'y serais jamais allé. Je ne serais jamais allé voir ces gens-là s'ils ne m'avaient pas contacté. Je suis allé à leur demande, monsieur André.
S'il
vous plaît, c'est votre façon de penser que vous extrapolez sur les autres,
allez,
on est d'accord.
S'il vous plaît, la démocratie c'est aussi de laisser la parole à chacun des quatre candidats. Je voudrais bien qu'on écoute un petit peu Jean-Philippe Roy sur cette thématique sociale.
Non, sur cette thématique, je vais me répéter, mais la ville n'a pas se substituer par rapport à l'État.
On ne met pas un euro.
Ça, c'est clair.
On
ne
met pas un euro dans cette affaire.
Si, pour la viabilisation.
Pas un euro.
La viabilisation,
c'est
normal.
C'est normal,
mais il y a quand même un euro.
Pas un euro de la ville.
La viabilisation, c'est normal.
Le département ne met pas de subvention sur les meilleurs isolés.
Marc-André Sabatin et Pascal Martin, est-ce qu'on peut.
Sur les meilleurs isolés, oui. Sur les meilleurs isolés, le département met quand même de l'argent. C'est l'argent du côté.
Est-ce qu'on peut laisser, s'il vous plaît, Jean-Philippe Roy s'exprimer tranquillement et sereinement sur ce sujet, en vous approchant bien du micro, s'il vous plaît.
C'est ce qu'il fait. Il n'y a pas un euro sur le projet.
Sur les mineurs isolés, le département, l'État prend ses responsabilités.
C'est une compétence des départements.
C'est une compétence des départements.
Oui, c'est une compétence des départements.
Oui,
je suis désolé.
Bien sûr.
C'est la loi.
Mais c'est la majorité.
Alors vous pouvez.
Mais vous êtes dans la majorité s'entente.
Vous modifiez.
Voilà. Présentez-vous sans étiquette.
La majorité départementale, elle applique la loi, monsieur Roy. Si vous ne voulez pas l'appliquer, c'est votre problème.
Rentrez en bras de fer avec l'État à ce moment-là. C'est pas l'argent du contribuable.
C'est la loi, c'est le législateur qui définit.
On est d'accord avec la loi.
Bah oui.
Donc 4 pistes à 100 euros.
On applique la loi
pour un mineur isolé, ça vous gêne pas. L'argent du contribuable pour ça, ça vous gêne pas, vous. Les retraites, vous savez...
Mais pourquoi vous adressez à moi?
Mais vous êtes de la majorité sortante.
Alors, monsieur Martin soutient aussi la majorité sortante. Ouais, adressez-vous.
Je sais que tous les deux, vous allez manger le gâteau tout à l'heure.
Quelle majorité sortante?
Vous faites partie de la majorité sortante.
Mais le département, vous parlez...
C'est le niveau régional, donc monsieur Martin...
Qu'est-ce que vous êtes gentil? Moi, j'ai de la popularité, alors.
Vous pouvez.
Vous êtes gentil, je suis populaire.
Allez. Vous pouvez vous adresser à monsieur Martin pour ces critiques-là.
Jean-Philippe Roy, restez sérieux, messieurs.
Jean-Philippe Roy, est-ce que vous avez dit ce que vous souhaitiez dire sur la thématique du social?
Si on coupait pas, j'ai mangé un de gâteau avec tout le monde, mais bon, à un moment donné, on peut pas,
Ok, alors on va passer au numérique, si vous le voulez bien, puisqu'on parle d'accès à la fibre optique, depuis plusieurs années, et pourtant, on a encore le sentiment aujourd'hui que peu de personnes y ont accès. Visiblement, Jean-Philippe Roy n'a toujours pas accès à la fibre optique non plus, il y faisait référence tout à l'heure, vous vous exprimez sur le sujet. Beaucoup de personnes n'y comprennent rien, ou du moins, pas grand-chose. Qui contacter pour se raccorder? Quelles sont les conditions? Alors, est-ce que l'on touche au but une bonne fois pour toutes? Et va-t-on bientôt être fixé sur le territoire? Là, vous n'aurez pas à répondre aux concurrents, Marc-André Sabatier, parce que c'est vous qui allez ouvrir sur cette thématique.
D'accord.
C'est vraiment plus pratique.
Alors, je suis désolé, je prends un peu de temps, je suis obligé de faire de la pédagogie, d'expliquer ce qu'est ce projet. C'est un projet très ambitieux, sur lequel le département s'est engagé, n'était pas obligé de le faire, qu'un projet soutenu par l'Europe, l'État, la région. C'est un projet à 300 millions d'euros, quand même, je le rappelle.
Mais est-ce que ça marche aujourd'hui?
Ça marche pour un certain nombre de personnes, ça marche pour ce qu'on appelle les grands comptes, les collectivités, les hôpitaux, les entreprises, etc. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'accès à la fibre pour tous. J'étais en débat avec le président du département, débat qui va être diffusé ce soir sur France 3 cet après-midi. Il a rappelé que l'objectif du département, c'est la fibre pour tous, on va dire courant 2022. C'est un peu de retard par rapport à ce qui avait été dit, mais encore une fois, on est en crise sanitaire, ce serait dommage qu'on n'en parle pas un petit peu plus quand même. Clairement, le problème qu'on a, c'est les grands opérateurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui est chez un opérateur type Orange SFR, il ne va pas aller vers un petit opérateur. Donc, il attend que les grands opérateurs soient commercialisent en fait la fibre. Je peux vous annoncer, alors je vais passer sur les détails techniques parce qu'on est en phase, il n'y a pas eu de commercialisation ces derniers mois sur Vire comme dans toutes les villes du Calvados, parce que en fait on a installé des armoires que vous avez peut-être pu voir, qui permettent justement aux gros opérateurs de se raccorder sur le réseau fibre optique. J'ai le plaisir de vous annoncer que SFR et Orange contactent actuellement leurs clients pour commercialiser la fibre. Ça veut dire qu'on rentre maintenant dans la phase de commercialisation. Alors, je comprends la patience, je comprends que dans certains secteurs, c'est compliqué. Je pourrais parler de Montissanger, par exemple, à Vaudry, où j'ai rencontré à plusieurs reprises des personnes. La commercialisation en direction du grand public, elle démarre. Ce sont les grands opérateurs qui, eux-mêmes, lancent la commercialisation. J'ai plusieurs personnes que je connais qui ont des rendez-vous cette semaine, la semaine prochaine, avec SFR, avec Orange. Donc ça y est, la commercialisation, elle est partie.
Voilà.
On touche au but, c'est un projet. Vous savez, il faut comparer ce projet au déploiement des réseaux d'eau, des réseaux de téléphone, il y a un siècle. Hein. Il faut quand même voir ce que c'est, 300 millions d'euros, mettre de la fibre partout dans le département. Je veux bien qu'on dise que ça ne marche pas, que ce n'est pas normal, etc. Mais la réalité, c'est que c'est des projets très complexes, très coûteux, et qu'on arrive effectivement au but, puisque la commercialisation commence.
Jean-Philippe Roy, c'est à vous de vous exprimer. Vous étiez inquiet tout à l'heure, enfin inquiet, pas inquiet, mais frustré de ne pas pouvoir vous raccorder au débit. Vous avez écouté attentivement Marc-André Sabater, vous êtes donc rassuré.
Quel opérateur vous avez, monsieur Roy?
Aujourd'hui, SFR passé, monsieur Sabater, ou quoi?
Alors, si vous êtes SFR, donc vous allez être contacté par SFR. Mais
je ne suis pas là pour parler de mon opérateur,
mais non, mais je suis là pour
parler des zones blanches.
Est-ce que le département a fait du bon boulot sur le déploiement de la fibre optique? C'est ça, en fait, la question, Jean-Philippe Roy.
La majorité sortante a oublié le haut débit. À un moment donné, il y a comme du haut débit. On arrive aujourd'hui, il y a encore des zones blanches, on a encore des zones, moi pour moi, qui apparaissent grises, on n'a même pas de haut débit.
Mais
Comment
la fibre optique.
Quel coût ça va avoir au contribuable, monsieur Sabater? Quel coût ça va avoir?
On a grillé des étapes?
La fibre optique, c'est il n'y a plus de haut débit, c'est de la fibre optique.
Il n'y a même pas eu de bon sens dans ce qui a été fait. Bon, voilà.
Bah, écoutez,
la 4G fonctionne? Elle ne fonctionne pas.
Mais ça n'a rien à voir avec la fibre optique et le haut débit, la 4G.
Donc on va passer par les satellites, monsieur Sabater.
Ça n'a rien à voir.
Linda Bedouet, la 4G, la 5G, la fibre optique, ça vous inspire quoi tout ça?
Alors, il est évident qu'aujourd'hui, avec le développement du télétravail, Internet est essentiel pour le développement des territoires ruraux. Je vois que depuis que je suis arrivée, on parle de la fibre et qu'elle est en train d'arriver. Il y a peut-être certainement eu des complications, mais qui ne m'intéressent pas plus que ça aujourd'hui. Je pense que le projet est bien lancé. Il a déjà été voté. De toute façon, nous ne pourrions pas avoir d'action là-dessus. Donc si on peut dépasser le bilan et aller plutôt sur qu'est-ce que nous proposons en tant que changement au département, on pourrait passer à la question suivante.
Eh ben, sur ce dossier-là, justement, ça fera partie quand même des priorités aujourd'hui.
C'est déjà voté, budgets sont déjà, déjà presque branchés.
Les candidats de Condé en Normandie nous disaient la semaine dernière autour de cette table, autrefois quand des habitants s'installaient sur une commune, ils nous demandaient très souvent s'il y avait une école. Maintenant, ils nous le demandent s'il y a du haut débit ou de la fibre optique. C'est quand même devenu un vrai enjeu.
Oui, mais les écoles sont aussi importantes.
Hein.
Et les mini-crèches et tout le développement pour l'accueil des familles en ruralité. Mais sur le développement des tiers-lieux, c'est évident que l'Internet est important. Après, sur le développement de la 5G, je pense qu'on pourrait quand même s'arrêter à la 4G, que ça fait suffisamment de nuisances environnementales et au niveau de la santé, et que suffisons avec ce qu'on a déjà et pour avancer et développer notre territoire au niveau économique et surtout environnemental.
Merci Linda Bedouet. Pascal Martin, on doit se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui ou là il est vraiment temps d'accélérer sur le territoire quant au déploiement et surtout, plus que le déploiement, le raccordement aujourd'hui à la fibre.
Je vais vous surprendre, bien évidemment, ça ne va jamais assez vite. Il est temps de réduire la fracture numérique. Hein. C'est nécessaire pour l'attractivité du territoire et nécessaire également pour l'égalité des citoyens. J'ai voyagé sur le terrain et c'est vrai que ça arrive. Ça arrive en aérien, ça arrive en souterrain, ça vient. Mais je pense que je regrette simplement Ça va venir, je pense qu'il y a du retard, c'est vrai. Bon, effectivement, c'est toujours trop tard, mais on a tous vu des étudiants qui sont obligés de repartir à Caen, y compris chez moi, pour suivre leurs cours, passer leurs examens, parce qu'ils ont, ils ont le doute ici de ne pas pouvoir être connectés, donc ça, ils sont obligés de rentrer sur Caen alors qu'on pourrait le faire là. Bon, c'est vrai qu'on le constate. Hein. Et par contre, je pense que le gouvernement, le département a été un peu trop rapide sur sa communication et a fait naître des attentes qui sont aujourd'hui pas satisfaites. Et donc, c'est vrai qu'il faut encore, d'après ce que je lisais, peut-être dans les premiers mois de 2022, tout le monde pourra être connecté, mais il faudra effectivement, vous m'avez annoncé tout à l'heure les grands opérateurs, il faudra aider les particuliers à se raccorder à la fibre. Mais il ne faut pas oublier non plus la téléphonie, hein, parce que ça ne passe pas toujours. Vous avez vu l'article hier sur le quai de la gare dans Ouest-France, sur le quai de la gare de Vire, il n'y avait pas de connexion possible sur le quai de la gare de Vire. Donc il y a quand même des endroits, alors, effectivement, Reynaud a fait mettre son poteau de téléphonie et toute la zone est sortie de l'ombre. Il y a d'autres endroits, mais n'oublions pas la téléphonie pour sortir tous ces territoires de l'ombre également.
Le numérique aura généré un débat pour le moins apaisé, ça fait du bien.
Moi, je vais en profiter quand même pour parler.
Excusez-moi. Faudrait veiller un peu au temps de parole quand même, vous ne croyez pas.
Non, mais la question du numérique est essentielle.
Madame Bédouille-Élodie, hein. Tout est essentiel, nous aussi on a des choses essentielles à dire.
La crise sanitaire a révélé véritablement les besoins du numérique, à la fois
équipé en
numérique et aussi la demande de proximité. Ouais. On a besoin de ça.
Vous êtes relativement d'accord là-dessus. Oui. La dernière thématique, c'est celle qui est liée au tourisme. Et vous en avez tous beaucoup parlé d'ailleurs de ce tourisme vert sur ce territoire. Vous en avez beaucoup parlé durant cette campagne. En quoi le département peut-il favoriser le développement de projets en la matière sur le territoire ? On parle bien de la compétence du département sur cette thématique du tourisme vert. Jean-Philippe Roy, Vous le connaissez ce territoire, vous allez aussi, j'imagine, vous promener de temps en temps côté du lac de la Datée. Est-ce que demain, en tant que conseiller départemental, vous allez proposer des projets à la Datée ou ailleurs, évidemment, sur ce grand canton de Vire-Saint-Sever?
Déjà, tous les projets qui ont été mis en place, parce que ça au niveau de la communication, c'est très bien. Je pense qu'il y a des améliorations à faire sur ces sujets. Mais pour moi, il y a pas mal de choses à faire évoluer dans ce sens.
C'est une priorité pour le Rassemblement National demain, le tourisme vert, ou alors, franchement, les priorités, elles sont ailleurs?
Ça va être une priorité, mais je vais être contre les éoliennes, qui vont défigurer tout notre paysage. Mais vous pouvez rigoler tout à fait.
Non, pardon, excusez-moi.
Mais c'est pas gênant, parce qu'à partir d'un moment donné, quand on parle d'un sapin de Noël et qu'on considère que c'est un arbre mort, j'ai un moment donné, mettre des grands ventilateurs.
Mais là, on parle de tourisme.
Hein. Mais c'est du tourisme, ça fait partie des compétences.
Les éoliennes, on vient visiter les éoliennes.
Voilà, donc des grands ventilateurs, il y en a partout sur la 84. Voilà. Donc c'est pas des arbres verts, c'est pas des arbres morts. Voilà.
Linda Bedouet, c'est à vous justement de vous exprimer. Vous ne souhaitez pas implanter des éoliennes sur le territoire si vous êtes élu conseillère départementale.
Le sujet, là, c'est le tourisme vert. Et c'est vrai qu'on a un gros, gros atout ici sur notre territoire et sur notre canton. On a les tapes en forêt qui est en place et qui se redéveloppe. Et ça fait plaisir parce que c'est un site merveilleux et on a une super équipe dynamique. Et on voit que ça fonctionne. Quand on a des personnes qui sont proches des gens, ça fait venir. Et puis on a de très beaux atouts avec cette grande forêt et notre biodiversité qui est un petit peu encore préservé. Alors le bocage virois mérite vraiment toute notre attention pour que ça le reste, hein, parce que ça reste quelque chose de formidable pour l'accueil des touristes, de voir justement la différence par rapport à la Haute-Normandie où il n'y a plus beaucoup de bocage et on voit bien que les paysages sont meurtris. C'est ça qui fait la valeur de notre territoire aujourd'hui. Et donc l'arbre, évidemment, à prendre en compte dans une autre gestion. Et là, le département peut aider à la plantation des haies, peut aider aussi au développement d'une filière de valorisation des haies pour inciter les agriculteurs à les préserver, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tellement d'intérêt à le préserver, ça prend de la place. C'est en plus une responsabilité pour eux si jamais ça vient endommager les routes. Donc, il faut leur trouver un argument pour continuer à les préserver, et ça fait partie, normalement, de leur rôle de paysan, de préserver le pays et le paysage. Au-delà de ça, on a quand même aussi des arguments agro-touristiques, puisqu'on a une très belle agriculture encore préservée, avec des vaches qui pâturent, quand elles ne sont pas enfermées à manger du maïs, et ça, c'est regrettable, mais on pourra en reparler sur l'agroécologie et les développements économiques que ça peut présenter et environnementaux pour les agriculteurs. Mais donc ce tourisme agroécologique, c'est aussi quelque chose, un levier pour eux, pour améliorer leur fin de mois, accueillir, pourquoi pas, développer des gîtes, développer des visites. Moi, je fais partie, par exemple, avec mon écolieu d'un site qui s'appelle Au la Vache et qui permet la visite de nos fermes et l'insertion des personnes qui souhaitent mettre les mains dans la terre, passer un temps avec nous, donc au-delà du logement. Et pourquoi pas développer aussi la restauration à la ferme, qui peut être aussi un autre levier, puisqu'on a d'excellents produits.
Je ne doutais pas que cette thématique du tourisme vert allait vous permettre à vous, Linda Badoué, de rééquilibrer
enfin,
un petit peu votre temps de parole.
Ouais.
Vous serez force de proposition demain sur cette thématique. On sait que c'est une thématique importante. Alors pour
évidemment.
Beaucoup de territoires, mais peut-être particulièrement pour celui-ci.
Oui, encore une fois, c'est une richesse qui est encore là. Et j'ai vu tellement de territoires pour avoir fait pas mal de contrées en France au sein de mes engagements militants écologiques avant, qui ont été gâchés. Nous avons un trésor à préserver et il faut redoubler d'efforts pour planter, continuer à préserver ce bocage. Et ça peut être vraiment quelque chose qui accompagne la transition agroécologique, les agriculteurs et leur manque aujourd'hui de manque à gagner. Et c'est un corps de métier qui souffre énormément, ici aussi. Donc c'est à nous de leur proposer des aides et des accompagnements sur ces sujets-là.
Et la conseillère départementale que vous serez peut-être demain ne manquera pas d'idées, en tout cas en la matière, on l'a bien compris. Pascal Martin, c'est à vous de vous exprimer sur la thématique du tourisme. Vous avez tenu avec votre équipe une conférence de presse sur la voie verte entre Vire-Normandie et Saint-Sever. Ça fait partie des projets de mandat.
Voilà, parce que c'était à mi-distance entre les deux pôles
et c'était symbolique
du canton
aussi.
Et c'est symbolique parce que voilà, on voulait montrer qu'il fallait développer le tourisme ici sur le canton de Vire-Saint-Sever.
Il y a des projets concrets en la matière ?
Oui, des projets. Alors, le département est compétent, hein, puisqu'il y dépense 29 millions d'euros par an. Il est important de développer le tourisme vert sur l'ensemble du territoire, ce qui générera des retombées économiques. Et nous devons absolument promouvoir, effectivement, je suis très sensible au problème des haies. J'en ai moi-même, j'ai beaucoup de mal à les garder. Mais je vous assure que j'y mets toute mon énergie pour les garder. Et donc, promouvoir la qualité naturelle de notre menton, la ruralité, la nature, la verdure, la forêt, c'est un atout aussi en période de post-Covid-19, où beaucoup d'urbains veulent revenir. Et dans toutes les communes, j'ai vu que des maisons se vendaient. C'est vraiment un bon signe. Mais encore une fois, c'est aux investisseurs, aux collectivités, aux associations, de créer des produits touristiques pour que le conseiller départemental les porte. Hein. Donc on a des outils pour ça. Ça s'appelle Calvados Attractivité. Encore faut-il y faire appel. Et alors nous avons des projets de développer des chemins ruraux, des chemins ruraux mais pédestres et des pistes cyclables où on peut effectivement rejoindre Vire à la Datée, Saint-Manvieux, le lac du Gard, l'étape en forêt, mais aussi des chemins transversaux. On est allé voir les gorges de la Vire, on peut repasser par la grotte de Bion, Saint-Sever, village de caractère, on rejoint le Gard. Il y a des tas de choses à faire dans le coin pour être attractif. C'est quelque chose, et puis développer la pratique du vélo, VTT, pourquoi pas assistance électrique également. Voilà, je pense qu'on va être assez d'accord sur ce trésor que nous avons ici et qui est devant nous.
C'est apaisant, hein, cette thématique du tourisme vert. Vous ne trouvez pas, Marc-André Sabater?
Je regrette vraiment, alors je ne veux pas polémiquer. Mais
qu'on n'ait pas commencé par là?
Non, pas du tout, mais je regrette vraiment que M. Martin n'ait pas voté notre rapport de politique publique à Vire qui parle de la réalisation de la liaison à la Datée, Vire la Datée, parce que c'est un projet.
C'était mélangé dans tout le. C'est ça, oui?
Bah, attendez,
oui. C'est un projet. C'est un projet où il y avait tout et rien.
Bon, et donc, pas voté ce rapport, mais c'est pas grave,
voté
c'est pas
parce qu'il y avait tout été dit et rien en même temps. Tout est son contraire.
Alors, un projet concret. La liaison de Vire à la Datée que vous défendez.
Mais nous, on le défend, effectivement.
Vous n'avez pas voté le projet proposé par la ville.
Je suis même allé voir. Non, parce qu'il s'arrête. Après, on a parlé au niveau du département. On va rejoindre Saint-Manvieux et le lac du Gard, vous voyez.
La liaison à la Datée, c'est dans le
pourtant, les sujets où on vote contre sont les sujets forts et on vote candidat en 90% des projets de Vire-Normandie. Mais ils sont rares, ceux où on s'est opposés.
Non, mais vous m'empêchez de parler, ça vous gêne.
Vous avez relancé.
Non, absolument pas. J'assume les votes contre, au contraire.
J'assume
les votes contre
le rapport dans lequel on dit qu'on va faire la liaison Vire-la-Datée.
Mais ça, lorsque vous disiez tout et rien, vous disiez tout et rien, on vote 90%, mais on s'oppose sur des sujets forts. Vous l'avez remarqué.
Alors c'est pas en marche, nous votons rien.
C'est parce que ça va pas dans le bon sens. On est pourtant sympa. On est
pourtant sympa. C'est quoi vos projets départementaux demain?
Ça vous gêne, je sais.
En termes de tourisme vert sur ce territoire, on va recentrer un petit peu la question.
Alors bah oui, ça me gêne énormément que vous n'ayez pas voté un projet que vous partagez aujourd'hui.
On a bien compris.
Non, je le partage depuis longtemps.
Si, les projets de demain,
si j'ai fait ma déclaration de campagne là-bas, c'est pour ça.
C'est pour moi un des axes centraux de notre projet, c'est justement le tourisme vert. On a des pépites sur le territoire, ça a été dit par Mme Bedoué. On a le lac de la Datée, la forêt de Saint-Sever, des espaces naturels, le lac du Gard, des espaces naturels qui sont extraordinaires. On a beaucoup de maintenant, de circuits VTT, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Avec le département, donc.
Bien sûr, avec le soutien du département, puisque ça rentre clairement dans ses compétences. Donc pour moi, l'enjeu du mandat qui vient, mais c'est un enjeu départemental, mais aussi qui concerne les communes. Encore une fois, sur ce projet-là, c'est les communes qui vont porter le projet. Je me félicite que, avec la commune de Nous de Sienne, on ait été, et la MJC, on a été retenus pour mettre en place une station sport nature sur la Datée. On a bien travaillé avec tous les élus pour y arriver avec la MJC. Donc, on va être très très mobilisés sur ce sujet-là qui est majeur. Il faut qu'on mette en avant effectivement les atouts de notre territoire en termes d'attractivité. Vous savez, la crise sanitaire, elle a modifié un certain nombre de comportements. J'entends, même si selon M. Martin tout va mal, j'entends que le monde se rue sur l'immobilier sur notre territoire. Si on n'était pas si attractif les gens ne viendraient pas. Donc ils viennent et tant mieux. Et s'ils viennent, c'est parce qu'ils trouvent des services, ils trouvent un territoire. Alors détrompez-vous. Je vous laisse faire.
Déjà les services de proximité, vous vous en faites quoi?
Regardez.
Non mais ils arrivent pas vite, M. Sabater.
Non, vous voulez pas regarder, mais là vous allez avoir.
Jean-Philippe, vous n'êtes pas convaincu.
C'est un enjeu, on a des atouts formidables, on a un beau territoire, il faut le mettre en valeur pour le rendre plus attractif. Pour moi, c'est au cœur de notre projet.
Il est 20h passé de 18 minutes sur Radio VFM, on est presque dans le timing, on avait annoncé une fin du débat autour de 20h15, et c'est justement l'heure de conclure ce débat. Comme indiqué au début de celui-ci, vous allez avoir tour à tour 1 minute 30 pour vous adresser à vos électrices et électeurs potentiels. C'est le fameux moment de la conclusion, et c'est à vous de commencer, Linda Bedouet.
Alors, je vous remercie pour votre invitation, même si nous étions un tout petit peu chagrinés de ne pas pouvoir être en binôme, pouvoir poser nos idées à deux, puisque c'est comme ça qu'on s'est présenté à deux. Nous avons fait le choix de me laisser parler pour laisser parler aussi une femme, parce qu'on a pu voir les débats un petit peu qui sortent de leur gond parfois entre messieurs, et puis surtout qu'on ne laisse pas beaucoup parler les femmes de nos jours encore. Donc en politique, c'est très important, on a imposé des binômes, donc la plupart du temps, c'est par dépit qu'on vient chercher une femme pour être colistière, mais je pense qu'on a d'autres choses à apporter, et surtout au niveau de l'environnement et du recul par rapport aux véritables enjeux, et sortir des guéguerres politiques qui nous amènent nulle part. Alors, ceci étant dit, merci. Nous vous invitons tout d'abord à nous retrouver pour un pique-nique citoyen pour faire suite à ce débat au niveau de la Datée, vendredi 18 juin à 19h, pour échanger et construire ensemble. Pour nous, c'est essentiel. C'est ensemble qu'on changera la politique départementale. Si comme nous, vous êtes persuadés qu'il est possible de faire autrement, si comme nous, vous souhaitez de réels changements pour adapter et préparer notre territoire aux urgences climatiques et sociales, si comme nous, vous souhaitez des élus qui ne cumulent pas les mandats, alors un seul bulletin. Si comme nous, vous êtes persuadés qu'il y a une autre voie qu'un simple duel entre LREM et Rassemblement National, votez pour nous, Linda et Gaëtan. Merci beaucoup.
Merci Linda Bedouet. Réunion publique, pas ce soir. Hein, pas de réunion
publique
ce soir.
18 juin à 19h.
Mais pique-nique, on l'a bien compris, très bientôt du côté de la Datée. Marc-André Sabater, c'est à vous de conclure.
Écoutez, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on est sur un beau territoire. Alors, évidemment, tout n'est pas réglé, il y a un certain nombre de sujets à régler, mais on est quand même sur un beau territoire. On nous dresse parfois un paysage noir de ce territoire qui ne correspond pas à la réalité. On est sur un territoire où il y a beaucoup d'initiatives, il y a une vie associative très dense, il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise qui créent de la richesse. On est sur un territoire où il y a des gens qui cherchent à le développer. Notre rôle en tant que conseillers départementaux et en tant qu'élus de manière générale, ça va être de les aider, de les accompagner dans ces projets. Moi, je dis aux électeurs, je leur dis, venez voter. Venez voter, c'est extrêmement important. Je dis aux électeurs, alors qui me soutiennent, c'est sûrement pas tous les électeurs, bien sûr, je leur dis, venez voter, parce que je crains une abstention très forte. On voit bien que les élections départementales, peu de personnes en parlent, hein. On rencontre tous les uns et les autres beaucoup de gens, on voit bien que c'est pas quelque chose qui est forcément très présent dans la tête des gens. Donc venez voter évidemment tous, particulièrement pour le binôme que je représente avec Coraline. Si nous sommes élus, Coraline sera la représentante de notre binôme sur le territoire de l'intercom Séverine, l'ex-territoire de l'intercom Séverine. Il y aura une élue présente pour tout le monde.
Merci Marc-André Sabater. Pour l'instant, vous avez été parfaits tous les deux dans le respect d'une taille, du timing. Je ne doute pas que vous allez faire aussi bien, Pascal Martin. Vous avez également 1 minute 30 pour vous adresser à vos électrices et électeurs potentiels.
Alors juste pour vous dire qu'on aurait aimé aussi être à 4 ici, puisqu'on forme une équipe, et je fais un petit clin d'œil à Denis Jouot, le maire de Landelle et Coupigny, qui souhaite avoir un médecin. On a déjà commencé à travailler, on va l'aider au maximum pour qu'il puisse récupérer un médecin, parce que là aussi, en matière de santé, le désert médical est toujours là. Donc, je voulais vous dire que notre canton, bien sûr, a des atouts. Notre canton peut s'en sortir. Mais pour le moment, nous sommes à l'arrêt. Nous stagnons. Nous sommes en état de léthargie depuis 19 ans. Nous devons sortir de ces schémas d'un autre temps. Des cumuls de mandats, de l'absentéisme territorial, des vagabondages politiques sans scrupules, des cooptations, des entre-soi qui se pratiquent avec une légèreté impressionnante, contre-productif pour notre canton. Il est temps de vous interroger. Ne perdons pas 6 ans de plus, cela ferait 25 ans de mandat, vous rendez compte ? Pour retrouver un canton attractif et qui concrétise ses projets, nous vous proposons notre dynamisme, notre envie, notre détermination pour vous apporter une autre idée de notre territoire. Avec vous, rattrapons enfin notre retard et tirons notre canton de Vire-Saint-Sever vers le haut. Nous vous encourageons à vous exprimer massivement lors des prochaines élections départementales des 20 et 27 juin 2021. Et si vous le souhaitez, nous réussirons ensemble.
Merci Pascal Martin. La conclusion de la conclusion, elle vous revient, Jean-Philippe Roy, candidat du Rassemblement National.
Alors déjà, je vais conclure, parce que c'est vrai que M. Sabater a raison, M. Martin et Madame, on est quand même sur un territoire magnifique. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est quand même une politique de bon sens. Il va falloir à un moment donné qu'on sorte de cet immobilisme latent sur ce territoire. Voilà.
Rendez-vous donc pour vos électeurs.
Rendez-vous dans les urnes.
Le week-end prochain. Très bien, merci Jean-Philippe Roy. Merci, c'est la fin de ce débat consacré au premier tour des élections départementales sur le canton de Vire-Normandie, le canton de Vire-Saint-Sever. Merci à vous quatre, Marc-André Sabater, Pascal Martin, Linda Bodoué et Jean-Philippe Roy, d'avoir accepté de débattre sur notre antenne ce soir à 4 jours du premier tour de scrutin. Les élections départementales, ce sera effectivement les 20 et 27 juin. En même temps, on le rappelle que les élections régionales, Radio VFM vous proposera bien évidemment deux grandes soirées spéciales. Prise d'antenne à 19h30 dimanche avec les premières tendances. Nous serons en direct de tous les points chauds du Bocage, du Pré-Bocage, de la Suisse normande, du Bessin. Les résultats commune par commune. Nous nous intéresserons également au Sud-Manche, au Bocage Orné. Bref, nous serons partout avec un cocktail de réactions et d'invités dans nos studios. D'ailleurs, j'en profite pour vous lancer à toutes et tous l'invitation pour dimanche soir ici même dans nos studios. Enfin, sachez que le débat de ce mercredi est à retrouver en podcast sur notre site internet vfmradio.fr, et ce dès ce soir. Merci à Quentin Radic qui a assuré la réalisation de cette soirée dans nos studios. Merci également à Marie, Ingrid Varenne et Nathalie Briard qui se sont mobilisées en coulisses pour surveiller le temps de parole des candidats. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Belle soirée à toutes et à tous sur Radio VFM. Et vous l'avez bien compris, à dimanche soir pour notre grande soirée spéciale départementale et régionale 2021. Bonsoir.